toujours à l'écoute du Radio FM Plus, le 91 MHz sur l'agglomération Montpellier-Rennes, le 103.1, l'agglomération nîmoise, Roberto Alagna, Minuit Chrétien.
Oui, alors, donc, nous avons chanté la musique, parce que je crois qu'il chante en anglais après. Mais l'essentiel est dit. Alors, ce Minuit Chrétien, on l'appelait la Marseillaise du croyant, vous voyez, hein. Donc, de façon éclatante, eh bien, le croyant affirme justement le fond de sa foi. Il a été, me dit-on, supprimé maintenant de la liturgie à Noël, parce qu'il contient justement cette idée d'un Dieu courroucé. L'homme-Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle, le péché originel de saint Augustin, que saint Augustin a introduit après Paul, déjà, dont l'alignement se trouve sur Paul, puisque le péché originel, c'est la première désobéissance d'Adam. Et donc, le sacrifice du Messie rachète justement cette désobéissance d'Adam. Et puis alors, il est descendu pour de son père arrêter le courroux. Donc, si le père est courroucé, effectivement, c'est que il est en colère. Et donc, il faut, par le sacrifice, arrêter cette colère du père, vous voyez. Alors, moi, il a bercé mon enfance, ce Minuit Chrétien. Je crois que les paroles... Bon, la musique est d'Antoine Adam, et les paroles sont d'un libre penseur, je crois, qui était peut-être franc-maçon, gardois. Il suffit de taper Minuit Chrétien sur Wikipédia pour voir l'origine des paroles. C'est remarquable qu'un non-croyant, en principe, ait pu faire ce chant. Il est très beau, la musique est très belle, elle nous saisit, un frisson nous parcourt, et c'est le pouvoir... comme pour la Marseillaise elle-même, c'est un frisson qui nous fait oublier le côté inadmissible des paroles. La Marseillaise, elle aussi, c'est un hymne sanguinaire et raciste. Qu'un sang impur abreuve nos sillons, donc vous voyez, le sang doit couler, et ce sang, il est impur. Il y a même du racisme là-dedans, dans la Marseillaise. Mais on l'oublie, on chante sans le chant, parce que un frisson, un tremendum, comme on dit en latin, nous parcourt et on oublie le côté inadmissible des paroles au bénéfice de la beauté, même de la musique, vous voyez. Mais qu'on ne dise pas, en écoutant la Marseillaise, que la musique adoucit les mœurs. C'est pas vrai, Redouane, puisque on nous invite à imbiber la terre du sang de l'ennemi. Est-ce qu'on a besoin de ces chants pour galvaniser encore les gens? Je sais pas votre avis, Redouane. Moi, j'aurais aimé quand même qu'on change peut-être le fond des paroles, peut-être, non?
Il y a eu des tentatives, mais oui. Il semble qu'on a du mal à changer. Mais c'est vrai que actuellement c'est le tournant des cinq nations, et à chaque fois il y a des chants qui sont chantés, des hymnes, et moi je trouve toujours très beaux les hymnes anglo-saxons.
Voilà, ils sont religieux, je pense.
Qui sont plus apaisants.
Ah, exactement, c'est mon avis aussi. Ils semblent venus directement du temple.
On sent pas de la colère, alors que parfois dans la manière de chanter la Marseillaise, ça me fait penser au haka des Néo-Zélandais.
Absolument.
Qui est la provocation, c'est l'invective.
Oh, absolument. Alors, je dirais que la construction du christianisme majoritaire, qui est d'essence paulinienne, peut aboutir à la valorisation du sacrifice inconditionnel et à la limite du martyr. Alors, je suis d'accord avec vous, Redon, parce qu'il vaut mieux sacrifier pour les gens que l'on aime plutôt que de sacrifier des gens pour sa foi. C'est bien ce que nous avions dit déjà lors d'une émission précédente. Si on lit que dans les textes, et les textes sont irréfutables, implacables, là aussi comme Dieu, ils sont implacables les textes, si on se place d'un point de vue philologique, on lit que le Christ est mort en sacrifice pour l'amour des hommes, et il est mort comme rançon pour les racheter, c'est ce que disent les textes, c'est une rançon, lutron en grec, voyez Matthieu chapitre 20 verset 28, etc., Marc chapitre 10 verset 45, première épître à Timothée chapitre 2, verset 6, etc. Alors bien sûr, ce mot de rançon nous choque, parce qu'on voit Dieu comme quelqu'un qui rançonne en quelque sorte le croyant. Mais c'est ce que veut dire le grec lutron. Hein, bon, mais il y a un autre mot qui vient et qui fut d'abord réançon en français médiéval en 1250, hein, et ensuite il est devenu rédemption. Et donc on ne sait pas assez que rançon et rédemption sont deux formes d'un même mot qui viennent toutes deux du latin redemptio, par quoi la Vulgate traduit le lutron du Nouveau Testament. Et aujourd'hui, autant la rançon nous horrifie, autant la rédemption nous plaît. Mais en vérité, rançon et rédemption, c'est la même chose, c'est le même mot. Hein. C'est le même mot qui vient l'un par formation populaire, rançon, et l'autre par formation savante à partir de redemptionem, si vous voulez. Hein. Donc, l'idée et le mot sont les mêmes. Rédemption, c'est rédimérer, ça veut dire racheter. Hein. Et alors cette construction qui est, à mon avis seulement, je suis très prudent, à mon avis est très contestable du point de vue de la raison, cette construction a déteint sur toute notre culture. Et combien de rédemptions, par l'intermédiaire du sacrifice, font la base de combien d'œuvres ? Je pense, comme disait Valéry, qu'il en est de certaines idées, comme de certains mots, certains mots ont plus de valeur que de sens, si vous voulez. On réfléchit pas assez au contenu et le mot nous fait rêver. Alors vous voyez, Redouane, je ne me fais aucune illusion. Hein. Les versions sacrificielles et rédemptrices de l'amour procureront toujours de l'émotion, arracheront aux plus beaux yeux, je dirais, des larmes sans fin. Prenez le cas du rachat de la courtisane par l'amour qu'elle aura éprouvé et qui est calqué sur le pardon donné à Jésus à la pécheresse repentante qui a beaucoup aimé. Évangile selon Luc, chapitre 7, verset 47. Vous voyez, ses péchés lui sont pardonnés. Le texte grec dit « Oti egapesen polu » car elle a manifesté beaucoup d'amour en venant vers moi, dit Jésus. Hein. Non pas parce qu'elle a beaucoup aimé, elle a eu beaucoup d'amants, mais elle a montré beaucoup d'amour en venant à ma rencontre, voyez. Bon, alors Jésus pardonne à la pécheresse repentante. Et alors à l'époque romantique, on a eu le rachat de la courtisane par l'amour comme thème. Voyez Marion Delorme de Victor Hugo. Voyez le beau vers hugolien « Et ton amour m'a fait une virginité ». Ou bien voyez aussi « Splendeur et misère des courtisanes » de Balzac, ou encore « La dame aux camélias » d'Alexandre Dumas fils, qui a été adapté à l'opéra dans « La Traviata » de Verdi. Et considérez le sacrifice de Violetta dans « La Traviata ». Évidemment, la barbarie objective de l'exigence qu'on lui intime, on lui dit, c'est le père hein, de son amant qui lui dit qu'elle doit mourir pour que son amant fasse un mariage de son rang, et bien finalement cette barbarie se noie totalement dans la beauté de la musique qui l'a fait oublier la barbarie, vous voyez. Et on pourrait en dire autant de films comme Breaking the Waves, qui est sorti en 1996, ou bien Dancer in the Dark, qui est sorti en 2000, de Lars von Trier. Il s'agit toujours d'un rachat par un sacrifice. Qui peut résister à l'émotion que ce sacrifice inspire ? Mais comme je l'ai déjà signalé dans la première partie de mon livre, les larmes brouillent le regard. Et Bertolt Brecht parlait bien de l'obscénité dans l'œuvre de la catharsis qui dénoue le conflit en supprimant son côté inacceptable à la raison. Alors vous voyez, Redouane, c'est une idée qui me vient souvent à l'esprit, l'idée d'une barbarie de l'art. Alors vous allez me dire, mais non, pourquoi l'art dans sa beauté serait-il barbare ? Eh bien, parce que dans la beauté même, il peut véhiculer une idéologie extrêmement problématique. Et le danger est d'autant plus grand que l'œuvre est plus belle, vous voyez. Hein. Bon, vous aimez sûrement la Traviata de Verdi, Redouane, mais lorsqu'au deuxième acte, Germont, le père justement de l'amant de Violetta, vient intimer à Violetta de se sacrifier, moi j'aurais envie de lui jeter des pommes, si vous voulez, vous voyez. Donc, pourquoi la pauvre doit-elle se sacrifier ? Alors, c'est pour qu'elle ne déchoie pas en épousant une courtisane, pour qu'il épouse justement une femme de son rang. Mais pourquoi? Pourquoi ainsi sacrifier la mort, l'amour? Alors après, elle meurt au troisième acte dans une admirable musique. Les anges viennent du ciel pour l'emporter au ciel, etc. Vous voyez? Alors on la plaint, la pauvre, mais en pleure. Mais au fond, c'est inadmissible ce sacrifice. Peut-être que tout l'opéra, c'est la mise à mort, serait l'opéra du 19e siècle, serait la mort sacrificielle de l'héroïne dans la beauté de la musique, si vous voulez. Vous voyez Madame Butterfly aussi, hein, la pauvre, elle a été abandonnée par son amant qui en épouse une autre, elle va mourir. Donc c'est la mise à mort d'une femme dans la beauté du chant. Alors, il n'y en a qu'une femme qui refuse de se soumettre à la loi des hommes, c'est Carmen. Hein. Carmen refuse, dans l'opéra de Bizet, justement, ce sacrifice. Hein. Mais la plupart du temps, ce sont des anges sacrifiés. Non, je ne sais pas si je vous convainc, Redouane, cette idée d'un sacrifice. Alors, je pense que... Bon, il y a des cas où le sacrifice est peut-être inévitable. On va parler du sacrifice patriotique, par exemple. Mais il faut y voir non pas quelque chose dont on doit faire l'éloge, mais quelque chose qu'il faut déplorer.
Alors,
non,
est-ce qu'il peut y avoir sacrifice s'il n'y a pas d'amour? C'est la question que je me pose.
Oui.
Si je n'ai pas de l'amour pour les autres, qu'est-ce qui va motiver mon sacrifice? Il n'y a rien qui motive mon sacrifice.
Oui, alors...
D'où, effectivement, une sorte de relation assez étonnante, comme une sorte d'oxymore, hein. Le négatif et le positif qui ont besoin l'un de l'autre pour exister, c'est ça qui m'interroge.
Oui, mais alors je vais prendre l'exemple du sacrifice patriotique, l'exemple des morts à la guerre. Voyez comment Charles Péguy, dans un poème qui s'appelle Ève, évoque les morts à la guerre pour un autre type d'amour que l'amour dont nous parlons, mais qui existe aussi et dont on peut bien parler, l'amour de la patrie. Voici ce que dit Charles Péguy, « Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés hein. ». Ouais, alors c'est très beau avec les deux métaphores, les épis mûrs et les blés moissonnés. En plus, Charles Péguy est mort au tout début de la guerre de 14-18 en tant que conscrit. Il a payé de sa vie justement son engagement pour l'amour de la patrie, si vous voulez. Hein. Alors l'idée, elle a des antécédents célèbres. Par exemple, Corneille dans Horace dit « Mourir pour sa patrie est un si digne sort qu'on briguerait en foule une si belle mort ». Et voyez ce que dit aussi Victor Hugo « Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur tombeau la foule vienne et prie ». Alors c'est là une autre version du sacrifice par amour, celui-là accepté en faveur de son pays, et l'école laïque qui a enseigné ce catéchisme à des générations d'élèves n'a fait que reprendre formellement celui de l'autre école, qu'elle croyait pourtant être son ennemi, l'école religieuse qui enseignait le sacrifice de la vie, faire une croix dessus, hein, sur le bonheur terrestre. Hein. Alors certes, tous les vers que je viens de citer sont beaux, ils sonnent très bien, mais l'idée qui sous-tend, est-ce qu'elle est admissible? Je pense que le silence dans ce dernier cas est préférable à la célébration hagiographique. Il me semble que le simple souvenir dans le recueillement individuel est préférable à la commémoration collective, à grand renfort de pompe cérémonielle. Parce que, voilà, vous disiez, Redouane, est-ce qu'on peut mourir sans amour? Est-ce qu'on peut se sacrifier sans amour? Mais dans le cas de la guerre de 14-18, ou de la dernière même guerre mondiale, eh bien, les volontaires, soi-disant, étaient des conscrits. Ces conscrits, étaient-ils vraiment volontaires? Ils n'avaient pas le choix, ce n'était pas d'une armée de métier.
Oui, c'était très complexe, parce que, d'abord... On a conditionné hein, l'histoire à l'enseignement, à conditionner.
C'est ce que je disais sur l'école
laïque.
Donc,
effectivement, on a préparé la chair à canon.
Voilà.
En plus, on partait la fleur au fusil, parce qu'on pensait que ça allait être plié en 3 coups de cuillère. Voilà, ça serait fini. Et ça a été une guerre longue et terrible. Mais je crois que c'est au-delà de l'amour, parce que l'amour, en fait, a sublimé cette guerre, puisqu'il y a eu quelques épisodes où Allemands et Français ont bu le coup ensemble, ont fêté, chanté Noël, puisqu'on parlait de...
En fraternisé,
et ils ont été d'ailleurs fusillés à cause...
Il y a un film, Joyeux Noël, qui a été sorti, qui est sorti là-dessus.
Donc, voilà, c'est autre chose, je crois que c'est... l'amour pour la patrie, c'est un peu, ça me fait penser toujours à la chanson Douce France, hein, cher pays de mon enfance. C'est quelque chose qui est transcendant, et puis c'est aussi se battre contre l'injustice, la barbarie. Et l'autre, souvent, l'ennemi envahisseur, est considéré comme celui qui détruit cet équilibre. Et je vais me battre, défendre qui s'atterre, qui... C'est complexe.
Oui.
Là, par exemple, aujourd'hui, quand on voit les horreurs qu'il y a au Moyen-Orient, je pense par exemple... à la tragédie que vit le peuple azéri, il y a des hommes et des femmes qui payent de leur vie cette résistance. Et souvent, la résistance, c'est pas pour eux, c'est alors qu'ils sont à l'abri. C'est comme cette famille qui était accueillie, je ne sais plus où, ici en province, en France, Aziri, et puis quand le père a installé toute sa famille, il a voulu retourner, continuer son combat, et en fait, la famille n'a pas voulu le laisser partir tout seul. Et puis ils ont abandonné, alors que après avoir parcouru tout ce chemin, être à l'abri, ce confort pour continuer un combat.
Oui, ce cas est vraiment très émouvant et emporte l'adhésion. Mais je reviens, il y a des cas, je pense qu'il faut, respecter ces sacrifices une méditation silencieuse, hein, se recueillir. Mais ce qui me gêne, si vous voulez, c'est les cérémonies d'anciens combattants, vous voyez, tout ça,
c'est glorifier
voilà,
des actes qui sont le fruit de l'horreur.
C'est pour ça que j'ai appelé hagiographie, de la géographie.
Oui, d'accord.
La sacralisation,
tout à fait.
Parce que ces soldats sortaient-ils, vous savez que, prenez les poilus de la Grande Guerre, hein, on les enivrait avec du vin, hein, pour qu'ils puissent sortir de la tranchée et aller se faire tuer, ce qui est vraiment le cas. C'était bon. Voilà, étaient-ils volontaires? Alors il y a eu en 1917 les grandes mutineries. Hein, ils ont refusé de sortir pour aller au casse-pipe. Hein, mais alors on a fusillé, pour l'exemple, vous le disiez, Redouane, les mutins, hein, les mutins de Craon, etc. Ou Crane. Hein, voilà. Il y a un film de Stanley Kubrick qui s'appelle Les Sentiers de la Gloire là-dessus, où on montre comment l'horreur ça a été de fusiller des gens qui pourtant jusque-là s'étaient très bien battus, mais ils n'ont pas voulu une fois sortir pour un ordre absurde, justement sortir de la tranchée. Donc il y a même dans la scène, le film de Kubrick a été interdit pendant longtemps en France parce qu'il montrait l'impéritie, comme on dit, c'est-à-dire l'inaptitude des généraux, hein, le manque, l'incompétence de ces généraux et leur obstination. Et donc ces soldats qui ont été fusillés, certains s'étaient bien battus, il y en a même qui étaient déjà blessés, alors on les a soignés pour les mener au poteau d'exécution. Vous voyez, c'est horrible, hein, ce qui se passe. On voit ça dans le film de Kubrick, j'espère que les auditeurs auront l'occasion de le voir, c'est un film remarquable. Donc il ne faut pas, glorifier le sacrifice comme ça, hein. Il faut tenir compte de ça. Et alors, je vais parler maintenant de poètes que l'on croit athées, hein, mais qui ont une structure religieuse au sens sacrificiel. C'est Éluard et Aragon. Hein. Dans Le Déshonneur des poètes, Benjamin Perret accuse justement, à mon avis, Aragon et Éluard d'avoir repris simplement les vieux refrains religieux à propos des martyrs de la résistance qui ont donné à la mère patrie un amour allant jusqu'au sacrifice et à l'oubli de soi. Il a raison, il me semble, non seulement pour la forme de leurs œuvres. Voyez par exemple le poème « Liberté des Luards » qui a une structure litanique. Hein. « J'écris ton nom, j'écris ton nom », on dirait des litanies religieuses. Mais aussi pour le fond, hein. Parce que le martyrologe, c'est-à-dire la liste des martyrs que ces poètes ont célébré, aboutit à la sacralisation du sacrifice et montre la fécondité et la positivité du sacrifice selon une structure exactement chrétienne. Voyez la rose et le réséda d'Aragon qui fait du sang versé l'aliment d'un renouveau. Hein. Il coule et coule, il se mêle et se mêle à la terre qu'il aima pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat, etc. Le sang coule pour que le vin, un vin sorte des sillons, si vous voulez. Hein. C'est une poésie, je dirais, de l'encensoir. Alors, je suis d'accord que ça peut consoler certains, hein, en disant que le sacrifice est fécond, ça peut consoler. On peut voir, au contraire, le sacrifice comme un énorme gaspillage et le déplorer. Alors, on peut silencieusement y penser avec émotion, d'accord, mais on peut le déplorer. Et cette idée d'un tragique gaspillage dans le sacrifice, a été remarqué. Certains ont remarqué que la guerre était faite par des gens qui ne se connaissent pas, commandée par des gens qui se connaissent et qui ne la font pas. Alors on meurt souvent beaucoup moins pour la patrie, vous voyez, Redouane, que pour enrichir les marchands de canons. Hein. Et dans le cas de la conscription, c'est ce que je parlais tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure, il n'y avait pas d'armée de métier à l'époque. Hein. Le sacrifice n'est pas toujours volontaire, mais c'est un sacrifice obligé, sous peine de sanctions, comme on l'a dit, qui vont souvent jusqu'à l'exécution. Donc il y a des dangers à trop poétiser certains types d'amour. Alors nous allons écouter maintenant du même Aragon une chanson que tout le monde connaît, « Il n'y a pas d'amour heureux », mais écoutez bien ce qui est dit dans la première strophe. «